Bonjour, bienvenue à ce dernier épisode des Apatrides Anonymes de l'année 2025, édition du jeudi 11 décembre en direct de choc.ca à l'UQAM. On est tous les deux jeudis à 18h30. Que sommes-nous? Qu'est-ce que les Apatrides Anonymes? C'est votre regard braqué sur les discriminations, le racisme, l'autoritarisme, l'exploitation humaine, la folie extractiviste, sécuritaire et militaire, les menaces à la démocratie et aux droits humains, avec comme thème central les phénomènes migratoires, donc tout un programme. Simon à l'animation pour les 70 prochaines minutes. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Je suis en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu.
Bonsoir tout le monde.
Tu vas bien?
Oui, oui, toi?
Oui, merci. Tu nous as préparé un segment local d'abord.
Oui, national sur les enjeux sécuritaires, policières et administratives, on peut dire.
Donc, from coast to coast et non pas seulement la police au Québec.
Oh non.
Et un autre segment international, plus axé sur l'Amérique latine.
Oui, deux parties sur des élections récentes et sur des enjeux d'extractivisme.
Des élections mélodramatiques, d'opérette
oui.
Un peu.
Honduras, entre autres, c'est assez comique.
Ouais. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Ben, comique pour nous, mais peut-être pas plus
oui,
comique pour les Honduriens.
C'est un peu triste, là.
Et salut Marie-Ève, toi t'es à la mise en onde actuellement, tu vas venir me rejoindre en studio toi aussi pour d'abord un segment local.
Oui, local sur les questions autochtones.
Parfait, et aussi un segment international, donc plusieurs brèves européennes.
Oui, je vais faire trois pays, Belgique, Pologne et Grèce.
Parfait, très hâte d'entendre ça, à plus tard, et j'ajouterai ici et là moi quelques nouvelles, surtout internationales. On aura bien sûr l'habituel agenda antiraciste et quelques nouveautés musicales. On commence ça avec Mathieu dans un très court instant. Donc Mathieu, ben à toi la parole, je te laisse plonger et commencer cette émission.
Oui, donc l'organisme de surveillance chargé d'enquêter sur la conduite de la GRC est sans président ou présidente depuis près d'un an. Une situation qui bloque les enquêtes et nuit à la transparence quant aux interactions entre les forces policières fédérales et la population canadienne. Mm-hmm. La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, la fameuse CCETP, supervise la police fédérale depuis des décennies. Elle devait être intégrée à une nouvelle organisation créée par le projet de loi C-20 adopté en octobre 2024. La nouvelle commission des plaintes et de traitement des plaintes du public, il y a deux fois le mot plainte, ouais. Cette entité a le mandat d'enquêter sur les plaintes contre les agents de la GRC, mais aussi contre les agents des services frontaliers, qui n'avaient aucun organisme pour ces charmants personnages.
Donc c'est maintenant fusionné. Là, c'est
oui,
ça?
Mais c'est pas encore en application. Or, Ottawa n'a pas indiqué quand la nouvelle commission serait mise en place et opérationnelle, mais ça fait plus d'un an que ça a été adopté.
Okay.
La présidente de la commission a quitté ses fonctions en janvier, dans la foulée d'un rapport interne accablant dénoncé un milieu de travail toxique au sein de l'organisation. En date du 21 octobre dernier, la commission a indiqué que 235 dossiers d'examen et d'enquête étaient en attente de décision, parce que tant qu'il n'y a pas de présidente, il n'y a pas de décision de rendu.
Okay.
C'est quand même bien fait.
Donc, l'organisme de surveillance était surveillé par un organisme externe? Ou...
Ben, il y a eu un rapport par rapport au climat toxique, oui. Ça, okay. C'est un audit externe. Le nombre d'examens en attente est comparable au nombre de rapports d'enquête que la commission publie normalement annuellement. Donc, au cours du dernier exercice financier, elle en avait publié 203, puis il y en a 235 en attente parce qu'il ne se passe rien.
Quand même.
Au fil des ans, les conclusions et recommandations de la commission ont porté sur des enjeux cruciaux comme la gestion des manifestations par la GRC, le recours à la force et les abus de pouvoir des policiers. Un porte-parole du bureau du ministre de la Sécurité publique, le sympathique Gary Anandansagari,
oui,
a indiqué que le gouvernement est en train de nommer un nouveau président pour la nouvelle commission.
En train de nommer. C'est une manière de formuler un petit peu particulière.
Je sais pas si c'est une mauvaise traduction, mais c'est en train de. Pour en lire plus, il y a Alexandre Popovic qui a écrit une chronique dans Pivot Québec le 24 novembre qui s'appelle « Une gendarmerie royale laissée sans surveillance ».
On pourrait le nommer président?
Oui, ça serait pas pire pour les décisions, ça j'aimerais ça. Sinon, ben, le vice-président de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, l'OSSNR, affirme que l'organisme indépendant devra faire face à des choix très difficiles au cours des prochaines années en raison des compressions budgétaires fédérales de cette année. L'organisme qui surveille le Service canadien du renseignement de sécurité et plusieurs autres organismes de renseignement s'attend à disposer de moins de fonds en raison des restrictions. Les coupes budgétaires prévues font suite au dépôt de C2, devenu C12, qui vise à renforcer les pouvoirs de la police et du SRS en matière de collecte d'informations et à permettre à la garde côtière d'effectuer des patrouilles de sécurité et de recueillir des renseignements sur les plaisanciers, entre autres.
Okay. Donc, ça te concerne pas mal, ça, je
trouve. Tout à fait, oui. Simon. Donc, on coupe, tu sais, les fonds de cet organisme de surveillance, mais on donne plus de pouvoir et de tâches à la GRC, au SRS et aux autres agences de renseignement. Par ailleurs, le rapport annuel de l'OSSNR pour 2024 déposé au Parlement la semaine passée indique qu'il a constaté une augmentation notable du nombre d'enquêtes sur des plaintes liées au retard dans les contrôles de sécurité en matière d'immigration. Fait que tout ça pour dire que ça va très, très bien là, t'sais, au niveau des organismes qui surveillent ceux qui doivent être surveillés. Là,
oui, oui. Puis avec les deux projets de loi, ça risque... Bien, qui sont contestés d'ailleurs, mais s'ils sont adoptés, ça ne va pas s'améliorer.
C12 est peut-être déjà adopté. C'était aujourd'hui qu'il y avait le vote final, peut-être, à la dernière journée de la session, à vérifier, donc, ce
pas,
soir.
Je ne sais pas comment Stephen Guilbeault a voté.
Sinon, je vous suggère un article « Comment les enquêtes sur les militants autochtones sont devenues une priorité du SRS ». C'est un article de CBC-SRC du 18 novembre. Je vous en ai un extrait. « Les services secrets canadiens ont soumis les militants autochtones à une série d'enquêtes au sujet de l'extrémisme autochtone pendant au moins une décennie à partir de 1988, dans le cadre d'un programme de surveillance à l'échelle nationale qui, selon des documents internes, est devenu plus intrusif à la suite de la crise d'Oka en 1990. Mm-hmm. Ces enquêtes sont confirmées dans environ 1000 pages de documents internes jusqu'alors secrets du SRS et de son organisme de contrôle dont je viens de parler, qui vont de 1988 à 1999. Donc, des documents communiqués à CBC Indigenous sur une période d'environ 3 ans à la suite de plusieurs demandes d'accès à l'information. C'est un article vraiment qui parle de différents cas, de toute la répression et la surveillance de l'époque. C'est quand même pas mal intéressant. Donc, ça vous tente d'aller lire ça. Puis, j'ai le dernier sujet, Simon, si tu me permets.
Je te permets, ben oui.
Parfait. Donc, une déclaration de nos amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient qui date du 17 novembre 2025. Qui s'appelle le parti pris systématique dans les audits de l'Agence de revenus du Canada quand la solidarité est punie. Je vous explique.
Ben oui.
En octobre 2025, l'Agence nationale de sécurité et de renseignement a publié un rapport qui confirmait officiellement que l'approche de l'Agence du revenu en matière d'audit des organismes de bienfaisance liés au terrorisme était profondément déficiente, manquait de rigueur et présentait des risques importants de partialité et de discrimination, pouvant potentiellement enfreindre la Charte des droits. Ce rapport a validé des décennies de plaidoyers menés par les communautés musulmanes, arabes et sikhs, dont les organisations caritatives ont fait l'objet d'une surveillance disproportionnée sur la base d'indices faibles ou non fondés. Ce rapport a constaté que 67% des organismes de bienfaisance sélectionnés pour un audit au cours de la période examinée étaient identifiés comme dirigés par des musulmans.
C'est très surreprésenté.
Oui, hein, oui. Puis on parle de lien avec le terrorisme en plus. Oui. De plus, le rapport critique l'agence pour s'être appuyé sur des sources de renseignements non fondées et vagues qui signalaient de manière disproportionnée les organismes de bienfaisance islamique. Il soulignait que ces audits manquaient de documentation, de justification appropriée et risquaient de violer les droits fondamentaux lorsqu'ils se concentraient principalement sur des groupes religieux sans motif transparent et fondés sur des preuves. Voilà.
Intéressant article. C'est un angle, on n'a pas souvent parlé de ce genre de sujet.
Non, tout à fait. Puis c'est un peu technique, mais c'est intéressant quand même de voir. Par contre, la version publique du rapport de la fameuse agence de surveillance a été largement expurgée des détails essentiels tels que les noms des organismes de bienfaisance survisés, les allégations spécifiques et la liste des pays à haut risque ayant été supprimés. L'examen de l'agence n'a offert aucune voie vers la justice ou des réparations. Il n'a prévu aucun mécanisme permettant d'obtenir des excuses officielles, une compensation financière pour les millions de dollars de frais juridiques ou la réhabilitation de la réputation des organisations caritatives qui ont subi des dommages profonds et durables en raison de ces examens illégitimes. Comme le souligne l'International Civil Liberties Monitoring Group, cette absence de mécanisme de recours signifie que les organisations qui ont été injustement ciblées et, certains, démantelées, se retrouvent sans recours.
Suite aux examens, j'imagine.
Aux audits qu'ils ont accusés d'être des terroristes, puis ils ont été, il y a eu toutes sortes de lois après qui se sont appliquées à eux au niveau criminel.
Les bailleurs de fonds refusaient par la suite de donner, j'imagine.
Exactement. Dernière chose, Simon, l'analyse démontre que l'examen de la fameuse agence a négligé de manière critique un facteur fondamental de ce parti pris. Les audits de l'Agence de revenus du Canada ne servent pas seulement d'instruments de profilage religieux, mais aussi de mécanismes étatiques pour réprimer la solidarité politique avec les groupes opprimés à l'étranger. Parce que ce soit des groupes en appui à des peuples opprimés dans le monde.
C'est ça. Surtout qu'il y a un peu de résistance, on a le qualificatif de terrorisme assez
exactement.
Accolé assez rapidement.
Même au niveau de l'Agence de revenus du Canada, imagine.
Merci Mathieu. Avant de passer en musique, on reste chez nous avec quelques nouvelles locales en immigration avec notre préféré, le ministre québécois de l'immigration, M. Roberge.
Ben oui.
On le voit un peu trop ces temps-ci, je trouve, dans les médias, c'est fatigant. Donc, M. Roberge qui juge, contrairement à ce que nous disent les statistiques, que les demandeurs d'asile ne travaillent pas assez. Et c'est pourquoi il entend émettre incessamment une nouvelle directive qui leur couperait drastiquement les prestations d'aide sociale. On plafonnerait de manière assez importante le nombre de mois d'aide de dernier recours auxquels ces personnes ont droit. Le nombre exact de mois serait de 9 si mes sources sont à jour. Donc 9 mois à la suite desquels il n'y a plus aucune aide de l'État qui est disponible, qui est donnée.
Ouais.
C'est une mesure décrite par une bonne partie de l'opposition et par le milieu communautaire comme étant aussi inutile que cruelle. Inutile parce que ça permettrait seulement de faire des économies de bout de chandelle et cruel parce que ça pousserait à la rue des milliers de demandeurs d'asile qui sont parmi les groupes les plus vulnérables de la société. Selon Stephen Rach Hall, directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, une mesure qui serait beaucoup plus productive, ce serait d'offrir aux personnes en attente le statut de l'aide à la recherche d'emploi. Un service public dont ils sont exclus et qui permettrait justement d'améliorer les statistiques en matière d'employabilité chez les demandeurs d'asile. D'autres mesures qui sont évoquées pour éviter que les demandeurs d'asile ne deviennent prestataires d'aide sociale, réduire les délais de traitement de leur demande d'asile, accorder plus de permis de travail et les accorder plus rapidement, et évidemment l'éternel problème de reconnaissance des compétences. Actuellement, il y a quelques organismes communautaires qui prennent le relais de l'État en matière d'aide à l'emploi pour les personnes migrantes, mais ça reste des programmes sectoriels qui ne sont pas offerts partout ou à tout le monde et qui restent précaires, étant soumis aux aléas des demandes annuelles de subventions et aux pressions toujours grandissantes de Québec, avec un autre projet de loi qui vise à dépolitiser et réduire au silence les milieux syndicaux et communautaires, ce qui affecte leurs moyens de défendre leurs actions. C'est un autre sujet, mais j'en profite pour suggérer le texte d'Émilie Nicolas à lire dans Le Devoir, le titre « Le projet de loi 7 et le modèle québécois ». Je reviens,
très
monsieur.
Bon article.
Très bon article, un des seuls articles sur le sujet,
exactement,
d'ailleurs, je crois.
Ouais.
Donc, je reviens à monsieur Roberge. L'une de ses motivations, et ce sont des mots qu'il utilise de plus en plus souvent, c'est de rendre le Québec le moins attractif possible pour les demandeurs d'asile, pour les pousser à s'établir dans d'autres provinces canadiennes. Il y a Emmanuel Cry, intervenant à l'Organisation populaire des droits sociaux, qui a publié récemment une lettre ouverte très bien sentie. Le titre « Personne ne choisit d'être à l'aide sociale », je vous en lis une courte citation. « Je suis écœuré par le fond raciste qui se dégage des mesures annoncées, mais encore plus par les mensonges à peine voilés que la CAQ utilise pour justifier son désir de sabrer le filet social. » Et c'est pas tout. Une autre mesure qui est envisagée dans le cadre de cette opération « Rendre le Québec le plus repoussant possible », c'est de couper l'aide à la recherche de logement, non pas d'emploi, mais de logement cette fois-ci, encore et toujours pour les demandeurs d'asile, une autre petite économie insignifiante d'un point de vue comptable et dont le but affirmé est de nuire aux personnes migrantes. Donc concrètement, on s'aborderait le volet en accompagnement à la recherche de logement du PACI, le programme d'accompagnement du soutien à l'intégration, une autre mesure dont les conséquences seront de gonfler les statistiques en itinérance. Et je trouve qu'annoncer ces mesures-là au début de l'hiver, ça rajoute un peu au côté lugubre, ou comme on disait, cruel de l'affaire. Les mesures seront précisées bientôt, les budgets exacts qui seront retranchés, les dates de mise en œuvre, etc. Mais d'autres volets du PACI sont aussi dans la mire du ministre à plus long terme, comme l'accès pour les personnes migrantes à l'aide juridique et au cours de francisation à temps complet. Du côté d'Ottawa, je termine avec ça, trois projets de loi qui sont fortement contestés. D'abord, on en parlait tantôt, les projets de loi C2, C12. Tu me disais peut-être le C2 est adopté aujourd'hui?
Non, le C12 serait adopté aujourd'hui, celui qui concerne plus les mesures pour les immigrants, tandis que C2 était plus sur les polices, les surveillances,
la frontière,
la récolte de renseignements, oui.
OK. Donc, en tout cas, ces
à
deux
suivre.
Projets-là sont contestés. Ça, tu disais renforcement des frontières, moi je rajoute à la liste que tu mentionnes, et collaboration accrue avec les autorités états-uniennes dans un des deux cas aussi. Vous pouvez aller dans le site de la Ligue des droits et libertés, liguedesdroits.ca, consulter l'article « Résolution de la Fédération internationale pour les droits humains ». Le Canada doit retirer deux projets de loi menaçant le droit d'asile. Il y a aussi la campagne Stop C12, campagne d'envoi de lettres à votre député fédéral à laquelle vous pouvez prendre part dans le site du Migrant Rights Network sur migrantrights.ca. Le troisième projet de loi C9, lui, fait l'objet d'une pétition que vous pouvez signer en ligne en cherchant « Retirer C9, la loi visant à lutter contre la haine, une menace pour nos droits et libertés ». Donc, sous des apparences vertueuses, ce projet de loi minerait la liberté d'expression en faisant des amalgames douteux avec des concepts mal définis et des principes flous. Excusez-moi, j'ai une petite feuille collée, là.
Oui, oui, oui.
Donc, le projet de loi C9, qui ouvre la porte à beaucoup d'arbitraire, selon le International Civil Liberties Monitoring Group, on craint que plusieurs formes de militantisme pro-palestinien, environnemental, entre autres, soient beaucoup plus faciles à criminaliser. Vous pouvez donc en savoir plus et signer la pétition sur le site du groupe de surveillance iclmg.ca. Donc, beaucoup de projets de loi inquiétants ces temps-ci, à la fois à Québec qu'à Ottawa.
Ah oh, oui, oui, ben, on en avait parlé il y a quelques semaines. J'avais fait une chronique là-dessus. On en a parlé aussi avec nos invités du Front antifasciste populaire aussi
oui,
il y a quelques semaines. Puis on suit ça. Puis d'ailleurs, c'est drôle, le International Civil Group, là, je l'ai nommé tantôt quand il s'agissait des audits aussi. Là.
Bon, ouais.
Ils interviennent sur beaucoup de sujets intéressants.
C'est ça, ils sont là pour nous mettre les projecteurs sur des enjeux un peu cachés.
Un peu technique, c'est ça.
C'est ça. Donc, on va y aller en musique maintenant. On va écouter Beat Sexu, ce duo de Québec dont le cinquième et dernier album est en deuxième position du palmarès local de Choc. On va entendre la pièce-titre « Dernière chance ». Il y a eu pas mal de dates de spectacle dernièrement. J'en ai vu deux à venir. Demain, 12 décembre à Saint-Casimir, si vous êtes entre Trois-Rivières et Québec. Et gratuitement, le 29 décembre, dans le Vieux-Québec, dans le cadre du festival Kaléidoscope, qui a l'air très intéressant. Je vous nomme quelques artistes. Angine de poitrine, Samiane, les tireux de roche, crabe, chou, etc. Donc, pour l'instant, on y va avec Beat Sexu. Et au retour, Marie-Ève nous présente les dernières actualités autochtones. Thank you. beat sexu avec Dernière Chance. Vous êtes aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Marie-Ève est en studio devant moi pour les actualités autochtones.
Ben oui, je vais d'abord vous parler de la difficile question des femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Je vais prendre mon temps pour prononcer le prochain mot. D'abord, le comité Giganawenanimananig.
Écoute, je peux pas dire si tu l'as bien prononcé.
Moi non plus, mais j'ai prononcé toutes les syllabes en tout cas.
OK.
Donc, ce comité qui se traduit, le nom, dont le nom que je viens de dire se traduit par « Nous prenons soin d'eux » et qui avait été chargé de déterminer comment devrait fonctionner le système d'alerte robe rouge au Manitoba. Donc, ce comité a publié son rapport à la fin novembre parce que je rappelle là, que le gouvernement... Les gouvernements provinciaux, donc du Manitoba et le fédéral, avaient annoncé un projet pilote pour ce programme-là en mai 2024. Et donc là, l'équipe du comité a mené 43 séances de consultation à travers le Manitoba entre janvier et octobre de cette année.
Donc le projet pilote est terminé en tant que tel?
Exact. Donc, ces consultations-là ont permis à des familles de femmes, de filles, et personnes spirituelles autochtones disparues et assassinées de venir parler, aussi à des représentants d'organisations, de gouvernements autochtones, ainsi que des services de police, entre autres. Selon le rapport, la lettre rouge doit être lancée là, au plus vite, même au plus tard en juin prochain, 2026. Mm-hmm. Le système doit aussi être géré par un organisme autochtone indépendant. Il insiste sur l'importance de l'utilisation des langues autochtones et des pratiques culturelles et spirituelles autochtones dans la mise en place de l'alerte pour s'assurer que les gens aient confiance dans le système d'alerte.
Ça me semble évident, me semble.
C'est... Oui, mais faut le rappeler, on dirait, parce qu'il y a beaucoup des personnes qui ont consulté, qui ont dit hésiter, sans surprise, là, à contacter la police lorsque un ou une de leurs proches est possiblement en danger, justement parce que les autorités sont pas considérées comme dignes de confiance ou même compétentes sur le plan culturel. Mais plus qu'une simple alerte, le rapport recommande aussi que le système fournisse une aide 24 heures sur 24 aux familles, aux victimes et aux communautés. On parle, par exemple, d'aide psychologique, d'aide en cas de crise et de soutien pour les problèmes de santé mentale. Le rapport demande aussi une aide financière et des ressources qui seraient dédiées au rétablissement à long terme. Il y a plusieurs personnes participantes aux consultations qui ont mentionné avoir fait face à des situations très traumatisantes, là, où leurs proches étaient possiblement en danger. Beaucoup d'entre elles aussi ont déclaré que la police leur a régulièrement dit qu'il fallait attendre entre 24 et 48 heures avant de déposer un signalement de personnes disparues, alors que c'est pas du tout la politique en vigueur. On demande donc à ce que les alertes soient publiées sans délai arbitraire et qu'elles se fassent aussi par différents moyens là, de communication, que ce soit radio, réseaux sociaux, sites web interactifs, affiches, applications mobiles, ça pour assurer une diffusion à la fois rapide, mais la plus large possible aussi.
Bien, c'est ça, il me semble. Aussitôt qu'une personne, un proche, a une bonne raison de s'inquiéter, il me semble qu'on prend la demande, on prend le signalement.
C'est pas toujours le cas pour les Autochtones.
Bien, en tout cas.
Et même si le rôle du comité, comme tu le disais, là il est terminé, il précise que l'organisation qui va s'occuper des alertes va devoir gérer aussi son propre système de données et que ça, sans financement public continu, le système ne va pas fonctionner, alors que l'objectif, c'est de sauver des vies. D'ailleurs, si une telle alerte avait été mise en place, au début des années 2000, par exemple, bien des vies de femmes et filles autochtones disparues auraient pu être peut-être sauvées, comme celle des quatre victimes du tueur en série, Jeremy Skibicki, qui sont Rebecca Comtois, Morgan Harris, Marcy Dismaren et Ashley Shingos. Dans ces dossiers-là, je rappelle d'abord que les restes partiels de Rebecca Comtois ont été retrouvés dans la décharge du chemin Brady en juin 2022. Ceux de Morgan Harris et Marcy Dismaren ont été retrouvés dans une autre décharge l'été dernier. Et ceux de Ashley Shingos, eux, ont toujours pas été retrouvés. Elle est celle dont la police a le plus longtemps ignoré l'identité. Son nom a été révélé seulement au mois de mars dernier, alors qu'elle avait été la première victime de Jeremy Skibicki. En août, des recherches préliminaires avaient eu lieu dans la décharge du chemin Brady pour la retrouver, elle. Mais là, au début du mois, les vraies recherches ont enfin pu commencer. Il y a le premier ministre manitobain, Wab Kinew, qui a participé à une cérémonie avec les parents et la sœur d'Ashley Shingos pour marquer le début des recherches. On souhaite vraiment à la famille et aux proches d'Ashley que les recherches portent leurs fruits pour qu'ils puissent au moins entamer en quelque sorte un processus de guérison.
Et honorer de manière plus digne qu'avoir des corps dans des décharges.
C'est ouais, vraiment, exactement. Sur une note plus légère, c'est la fin de la saga entourant de fausses œuvres de l'artiste peintre Anishinaabe Norval Morisseau. Il y a Jeffrey Cohen qui a été reconnu coupable par un jury à la mi-novembre d'un chef d'accusation d'emploi, possession ou trafic d'un document contrefait et de 3 chefs d'accusation de fraude de plus de 5 000 $. Le procès avait commencé en septembre et Jeffrey Cohen assurait sa propre défense. Il devrait connaître sa peine là dans le courant de l'année prochaine. Il était le dernier des 3 co-accusés faisant partie d'un réseau de vente de fausses œuvres actifs dans le sud de l'Ontario. L'été dernier, ses co-accusés, qui étaient James White et David Paul Bremer, avaient tous les deux plaidé coupables à des accusations en lien avec la vente de toiles contrefaites et la production de certificats d'authenticité destinés à légitimer ces fausses œuvres-là.
Écoute, j'ai pas entendu parler de ce dossier-là.
Ah oui, ça fait quand même un bout que ça traîne, cette affaire-là, mais ce qui est le plus troublant dans l'histoire, tu vas voir, Simon, c'est que apparemment, les enfants, même les enfants de Norval Morisseau auraient participé à la fraude, entre autres en s'associant avec James White, qui utilisait l'image de leur fondation et leur nom sur des certificats accompagnant des reproductions de toiles contrefaites. Ça, c'est selon une enquête d'espace autochtone basée sur des documents de procédure civile et criminelle. Mais les enfants, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été accusés dans cette affaire-là. Et donc, pour John Semanovich, qui est spécialiste en authentification des œuvres précisément de Norval Morisseau, si ce chapitre-là de la vaste histoire de fraude artistique le visant est maintenant clos, le travail pour protéger son legs continue parce que ces réseaux de faussaires-là ont littéralement inondé le marché le marché de l'art de milliers de contrefaçons, ce qui a entaché l'héritage de Morisseau puis la valeur de ses œuvres. John Semanovich voudrait, lui, que soient créées des unités spécialisées en crimes artistiques au sein des corps policiers et que des lois qui facilitent la lutte contre ces crimes-là soient adoptées. Mais le plus important pour lui, c'est que les acteurs du manque de l'art, les revendeurs, galeries, experts travaillent ensemble là, pour rétablir la confiance brisée par la fraude. Je vous raconterai pas tous les détails de cette histoire incroyable, vraiment.
Ça risque d'être compliqué.
Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, entre autres, sur le stratagème des faussaires, là, qui est à peu près abracadabrant, je vous invite à aller lire l'article de Dominique Degré dans Espace autochtone sur le site de Radio-Canada. Ça s'intitule « Un fournisseur de fausses œuvres de Norval Morisseau reconnu coupable de fraude ». C'est incroyable.
C'est sûr que je vais lire ça ce soir ou demain avec du popcorn. Ça a l'air complètement abracadabrant.
Ben, moi, je ferai un documentaire avec ça. Là.
En tout cas, merci, Marie. Toujours. Donc, on revient dans quelques instants. Donc, voilà qui complète cette première moitié d'épisode qui était entièrement local, national, local. Pour le reste, à part pour l'agenda, ce seront des actualités internationales. Je lance le bal avec quelques actes de résistance à souligner en Europe.
Ah, ça va faire du bien, ça?
Je pense que oui. Ben, c'est sûr que ça s'accompagne d'événements qui sont pas toujours agréables. Il y a une raison pour laquelle il y a des actes de résistance. Vous
Et
allez
des
voir.
Fois, c'est suivi de répression aussi.
Oui. Donc, au moment où je vous parle, au moment où de la chronologie des événements, on peut dire qu'on est dans le pas trop négatif. Donc, on commence en Suède, où la droite alliée à l'extrême droite, ça commence bien, hein, est au pouvoir. Ben, il y a un mouvement d'élus de différents paliers indépendants et issus des partis plus au centre et plus à gauche qui mènent une fronde contre le nouveau programme d'aide au retour dit volontaire des personnes immigrées, qui vise non seulement les personnes en attente de statut, mais bien souvent des gens qui ont la résidence permanente ou qui sont même naturalisés, qui travaillent et que le gouvernement qualifie d'indésirables. Mais pour beaucoup d'élus locaux, leur nouveau slogan par rapport à ce programme-là, qui s'apparente beaucoup au principe presque suprémaciste de rémigration, c'est « merci, ouais, mais non merci », ou pardonnez mon suédois, « tack men nech tack ». Et ça crée même une vague de solidarité avec ces travailleurs étrangers qui, un peu comme ici, sont souvent en première ligne dans les hôpitaux, dans les résidences pour personnes âgées, et qui, au final, sont très appréciés d'une grande partie de la population suédoise qui est vieillissante et qui a besoin de soins, qui a besoin de services. Et donc, ce mouvement « Merci, mais non merci » a été lancé par le maire de la toute petite ville très nordique de Jokkmokk. Et selon lui, si on doit pousser les résidents issus de l'immigration hors de Suède, sa ville et la plupart de ses voisines devront carrément fermer, puisque les services publics, l'économie locale et les infrastructures sont presque entièrement soutenus par une main-d'œuvre issue de la diversité. Le mouvement prend de l'ampleur et a gagné l'ensemble des régions du pays, dont le sud très urbanisé. À peu près le tiers de toutes les municipalités suédoises disent maintenant « non merci ». Même le maire de Malmö, la deuxième ville du pays, a annoncé que sa juridiction joignait le mouvement de résistance. Stockholm, c'est difficile à dire parce que ça semble être un gouvernement très décentralisé et c'est un genre de district fédéral, donc je ne peux pas dire si le mouvement « non merci » a gagné Stockholm. Tout ça n'a pas empêché le gouvernement central d'annoncer une bonification de sa prime au départ en la faisant passer au 1er janvier de 2300 à 32 000 euros par personne, ce qui fait craindre le pire, sachant que même à 2300 euros, quelques individus ont accepté d'adhérer au programme de retour, alors qu'en multipliant la prime par 14, qu'est-ce qui va se passer? On vous en reparle en 2026.
Ouais, c'est ça.
Rapidement, deux, trois autres actes de résistance européens à souligner. Au Royaume-Uni, d'abord, 30 migrants devant être retournés en France en vertu de l'accord 1 pour 1, dont on vous a parlé quelques fois. Ces 30 migrants détenus dans le même centre de rétention ont entamé une grève de la faim. Cette nouvelle est sortie dans certains médias spécialisés la semaine dernière. Pas de nouvelles fraîches depuis ce temps, j'ai vérifié aujourd'hui. Pour ce qui est de l'accord qui est en opération depuis l'été dernier, il a fait en sorte qu'une centaine de personnes migrantes ont été expulsées et parmi elles, au moins deux ont retenté la traversée. Toujours dans la thématique résistance, 6 associations attaquent l'État français en justice pour non-respect des droits humains envers les migrants dans le nord du pays, surtout en lien avec les camps informels près de la Manche, Dunkerque, Calais, etc. Je vais nommer les associations Refugee Women's Center, Médecins du Monde, Utopia 56, Roots, Salam et Human Rights Observers. Elles dénoncent les associations des conditions de vie indignes dans ces campements de fortune où on manque de tout, accès à l'hygiène, à l'eau, à l'alimentation, aux soins, à l'hébergement, à l'information et à l'électricité. Ça aussi, on vous revient sur cette poursuite contre le gouvernement français en 2026. Et je termine avec une suggestion de lecture sur une initiative qui est autant un acte de résistance que de bienveillance. Le titre est assez évocateur. « Je me sens aimé aux portes de Paris, un lieu dédié aux jeunes filles mineures en mode survie. » Dossier publié chez nos amis d'Info Migrants, ça risque de vous arracher quelques larmes. On nous présente quelques adolescentes migrantes très isolées et vulnérables dans un rare lieu qui n'est pas nommé pour des raisons de sécurité et qui est géré par Médecins sans frontières et où on aide et surtout on respecte plus d'une centaine de ces adolescentes dont beaucoup proviennent d'Afrique subsaharienne.
Intéressant.
Donc, beaucoup, vous voyez, il y a de la résistance quelquefois, sinon on est perdu.
Et des gestes de solidarité.
Exactement.
Moi, je vais commencer mon petit tour par la Pologne, où là, il y a deux postes frontaliers qui étaient fermés depuis des années, qui ont été rouverts à la mi-novembre. Si vous vous rappelez, le gouvernement a effectivement érigé une barrière d'acier haute de 5,5 mètres et longue de 186 kilomètres sur la frontière avec la Biélorussie. Ça, c'était en 2022. Donc là, la frontière polono-biélorusse peut être franchie sur trois postes de frontaliers, ceux de Kuchnika-Bialostoka et de Brnauniki, qui viennent de rouvrir et qui ont été aussi modernisés, puis leur capacité d'accueil accrue. Puis il y a aussi celui de Terespol, qui avait été provisoirement fermé en réaction à des exercices militaires russo-biélorusses organisés en septembre près de la Pologne. À Bobrowniki, la reprise des passages concerne autant les personnes que les marchandises, mais seulement qui sont par des véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l'UE, dans l'Association européenne de libre-échange ou encore en Suisse. Et puis, quant à Kuchnika-Bialostoka, seulement les personnes qui voyagent en voiture sont autorisées et donc pas en autobus. Bref, on voit bien que l'idée, c'est que les migrants passent pas, donc ça change absolument rien pour les personnes migrantes. Il faut savoir que la frontière entre la Pologne et la Biélorussie passe au milieu d'une forêt épaisse et de marécages qui couvre une grande superficie. C'est 141 885 hectares.
Et où des migrants meurent ou se perdent.
Ouais, c'est ça. Ben, souvent vont errer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'ailleurs, tu parles de morts depuis la fin 21. Il y a au moins 55 personnes qui sont mortes dans la zone, d'après les ONG. On se déplace en Grèce, donc on bouge au sud, où le pays a procédé au premier test osseux pour déterminer l'âge des migrants se déclarant mineurs.
Ah, la technique française, je crois.
Oui, c'est ça. Cette mesure-là avait déjà été annoncée en août, et là, ça a commencé. Selon le ministère des Migrations, sur les 104 premiers cas examinés, 59 se sont avérés des adultes, soit 57%. 10 ont été déclarés mineurs et 35 sont toujours en cours d'examen. La détermination de l'âge se fait à l'aide d'une combinaison de méthodes. Là, il y a un examen médical, une évaluation psychosociale, puis une radiographie du poignet et ou de la main gauche pour déterminer l'âge osseux. Puis si des résultats sont contradictoires, tu sais, aux différentes méthodes, ben c'est la radiographie qui va prévaloir. Les migrants qui refusent de soumettre aux évaluations sont automatiquement déclarés majeurs. Il faut savoir que le statut de mineur donne un statut juridique particulier en Grèce, mais en général aussi dans l'Union européenne, par exemple en matière de logement, de liberté de circulation, puis d'accès aux services. Mais le plus important, c'est que les mineurs sont pas expulsables.
C'est ça la grosse nuance. Exact. Alors, les États veulent expulser le maximum.
Exactement. Et donc, cette pratique-là de test osseux est très controversée. Tu parlais de la France. Ben en France, les associations considèrent, et je cite, qu'il est aussi fiable qu'une boule de cristal parce que la marge d'erreur, en fait, est estimée en 18 mois et 3 ans. C'est quand même beaucoup. Donc, un adolescent de 14 ans, par exemple, peut tout à fait avoir la maturité osseuse d'un adulte.
C'est ça. En sondage, on dirait que la marge d'erreur est de 92%.
Non, c'est ça. Toujours en Grèce, je ne sais pas si vous vous rappelez le naufrage du chalutier Adriana au large de Pylos, dans le sud de la Grèce, alors qu'il faisait route vers l'Italie en juin 2023. Avec ses plus de 500 morts, il s'agit encore aujourd'hui du naufrage de migrants le plus meurtrier de l'histoire de la Grèce. Eh bien là, il y a 4 officiers supérieurs des gardes-côtes, dont le chef actuel, vont faire l'objet de poursuites pénales sur ordre du procureur de la Cour d'appel. Ils sont notamment accusés d'homicide involontaire par négligence. L'affaire avait déjà été classée sans suite par le procureur du tribunal maritime du Pirée, mais des associations représentant les survivants et les victimes ont fait appel de la décision. On ne sait pas quand le procès va commencer, mais en tout cas, on va rester à l'affût. Ces poursuites-là font aussi suite à d'autres procédures qui avaient été engagées en mai dernier contre 17 membres des gardes-côtes grecs. Et puis, toutes ces poursuites-là font elles-mêmes suite au rapport accablant du médiateur de la République hellénique. Dans son enquête, le médiateur avait, je cite, « pointé une série d'omissions graves et persistantes dans les tâches de recherche et de sauvetage de la part d'officiers supérieurs du corps des gardes-côtes grecs. Selon lui, les autorités n'avaient pas pris, dans le cadre de leur pouvoir, les mesures qui pouvaient être raisonnablement considérées comme propres à prévenir le danger. » Donc, on va suivre ça.
On imagine que ça avait été signalé par une ONG que cette embarcation se trouvait à tel ou tel endroit.
Oui, c'est ça. Sûr que... ouais. Je termine avec la Belgique. Rapidement, le pays fait face à une hausse des demandes d'asile venues de la République démocratique du Congo depuis le début de l'année 2025 jusqu'au mois d'octobre. 2120 Congolais ont déjà introduit une demande de protection internationale. C'est plus que sur toute l'année 2024. En 2021, pour vous donner une idée, il n'y était que 363 demandeurs d'asile venus de la RDC. Et donc, depuis, les chiffres doublent quasiment chaque année. Aujourd'hui, la RDC est le quatrième pays d'origine des demandeurs d'asile en Belgique derrière l'Afghanistan, la Palestine et l'Érythrée. Mais, paradoxalement, quand on regarde les personnes reconnues réfugiées en 2025, la RDC arrive seulement en 10e position.
Donc, taux de refus...
assez élevé, merci. Selon l'Office des étrangers, cet écart-là s'expliquerait par le fait que la plupart des demandes congolaises reposeraient sur de fausses déclarations. Une explication que rejette l'opposition congolaise pour Michael Sakombi, qui est membre du bureau politique du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie en RDC. La Belgique ferme les yeux sur la situation au Congo. Son parti a été suspendu. Joseph Kabila, on le sait, son leader a été condamné à mort. Il dit aussi que la répression vise toute voix discordante. Il cite le cas de l'expert belgo-congolais Jean-Jacques Wando, qui a été condamné à mort en septembre 2024 pour la tentative de coup d'État du 19 mai. Wongo a passé 8 mois et demi en prison avant d'être libéré sans accusation en février de cette année. Fait que voilà pour la Belgique.
Merci beaucoup, Marie-Ève, pour toutes ces brèves d'actualité européenne. On s'en va maintenant en musique.
I'm twisted, the dawn has got me lifted. Human nature's venomous, that's something that I'm gifted. You're on a hit list, look over your shoulder. Face is violent, purple as an evil maker's colder.
Shiver down your spine, the truth you like to hide.
Deafening with silence like a fucking spirit died. What? They're overcautious, always staying dormant. This culture got us running from ourselves to keep it moving forward. I'm an addict, addicted to my bad habits. Stomach growling, churning for some bad antics. Burn the fire, I look into the darkness. Looking back at eyes, staring blank cause they're heartless. From the dust, we grew up with no trust. Fly with fallen angels to the sun and then combust. It's an eye for an eye, every man for himself. In this place we are the parasites that only sold wealth.
Worse than somebody looking down on you. Break the curse, be defiant, let no man stop you. Lying or the sheep, the victim or the villain. Complicit in the narrative of pacified killings. It's a sore sight when you gotta choose. The lesser of two evils, either one will prove. That we're socially in apathy, what's left to lose? Still afraid of what we love, and that's a heavy truth. They don't like us when we're shining, they remember what they lost. Shame so strong, wanna wash away with blood. Blood calls blood, were we ever bleeding off? I could never show you more than the beauty in yourself. Falling short cause we don't love ourselves. Emotion is contagious, see the domino effect flourish. It takes courage to try and find some inner peace. It takes courage to recognize our own flaws. Honestly, the honesty is the only thing to say. Profit from our illness, human resources don't pay. Find another way, keep the pressure, got us choking. Swallowing our fears till our kids are overdosing. I'm an addict, addicted to my bad habits. I'm an addict, addicted to my bad habits. I'm an addict, addicted to my bad habits.
On entendait le très politique groupe post-punk, free jazz, noise rock, Marouja, sorte de nouveau Rage Against the Machine britannique. C'était extrait de leur tout récent album Pain to Power sur l'étiquette Music for Nations. Album très populaire auprès des producteurs de choc puisqu'il est en deuxième position du palmarès international de la station. La pièce qu'on écoutait s'intitule Blood Sport. On retrouve Mathieu dans 3 minutes. Quelques nouvelles du Tchad. On s'est pas mal attardé à cette région dans les derniers épisodes des Apatrides. On est à proximité du Soudan, où sévit l'une des pires, sinon la pire crise humanitaire actuellement. Je reviendrai pas sur le conflit extrêmement sanglant en tant que tel, mais sur le Tchad qui reçoit des centaines de milliers de réfugiés soudanais qui fuient principalement la région du Darfour. La prise en charge de ces quantités astronomiques d'êtres humains affaiblis et traumatisés est extrêmement complexe. Il y a peu d'observateurs qui se trouvent du côté soudanais de la frontière parce que c'est trop dangereux, mais RFI a dépêché une de ses journalistes de terrain, Nadia Ben Mahfoud. Elle a été très prolifique dans les 2-3 dernières semaines. Elle a publié de longs articles issus de ses rencontres avec les travailleurs humanitaires et surtout avec les réfugiés soudanais, ce qui nous permet d'en savoir plus sur ce qui se passe depuis la prise de la ville de El Fasher par le groupe paramilitaire Force de soutien rapide. On savait qu'un climat de terreur s'était installé, mais on n'en connaissait pas nécessairement l'ampleur ni la nature exacte. Mais au fur et à mesure que les témoignages sont recueillis auprès de ces réfugiés qui continuent à l'heure actuelle d'atteindre le Tchad, on peut maintenant avoir une idée un petit peu plus juste de ce qui se passe de l'autre côté, au Soudan. Donc encore aujourd'hui, par contre, on n'est pas certain de combien de Soudanais sont coincés à El Fasher, combien ont réussi à fuir, combien ont été tués. Il reste que du côté tchadien, dont le gouvernement n'entrave heureusement aucune entrée de réfugiés, la gestion de la frontière reste compliquée, puisqu'une fois traversée, les gens doivent s'arrêter, ils sont complètement épuisés, ils sont environ 2000 nouveaux réfugiés par semaine à se présenter à la frontière, après 4 ou 5 jours de marche dans le désert, parfois en partie fait en voiture avec des passeurs plus ou moins improvisés qui ont flairé la bonne affaire et qui demandent des tarifs prohibitifs pour les gens qui sont pas capables de marcher ou qui ne le sont plus. Rendus au Tchad, les réfugiés doivent être pris en charge rapidement avec une aide alimentaire et médicale de base, tout ça en essayant de les éloigner vers l'intérieur du territoire tchadien pour éviter les goulots d'étranglement qui ont pour effet de bloquer la frontière et donc d'empêcher les pauvres gens qui arrivent derrière de sortir du territoire soudanais où leur vie est en danger. On s'en doute, les camps qui sont dans la région sont surpeuplés et sous-équipés. Il faut donc les agrandir, en établir des nouveaux, mais encore plus loin de la frontière, ce qui occasionne beaucoup de déplacements de personnes et les ressources ne sont pas là. Alors on bricole, on rationne, c'est pas facile. Bref, dans l'onglet de recherche du site de Radio France Internationale, RFI.fr, si vous cherchez les articles les plus récents en lien avec le Tchad, ce sera ensuite beaucoup moins abstrait pour vous, cette boucherie qui est en train de se produire dans la région, tout ce que ça provoque là, en termes de migration et de prise en charge des réfugiés. Et je tiens à répéter le nom de la journaliste qui est sur place, Nadia Ben Mahfoud, pour souligner la qualité et l'exhaustivité de son travail. On change maintenant de continent et on rejoint Mathieu.
Oui, on s'en va en Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Sud, avec une partie sur les élections. Je commence avec le cirque de la semaine. Ça se passe au Honduras. La présidente sortante de gauche du Honduras, Xiomara Castro, a dénoncé cette semaine la falsification du résultat de la présidentielle du 30 novembre et l'ingérence de Donald Trump, qui soutient le candidat Nasri Asfora, légèrement en avance sur le candidat Salvador Nasralla. Au point mort depuis plusieurs jours, le décompte des bulletins, qui restait bloqué à 88% des résultats, a repris samedi. Il était bloqué samedi, a repris lundi. Ainsi, M. Nasralla, un présentateur de télévision de 72 ans, membre du Parti libéral, a dénoncé un vol de scrutin lui aussi, marqué par plein de retards dans le dépouillement à raison de plein de problèmes informatiques et techniques successifs depuis le 30 novembre.
Donc tout le monde s'accuse d'être des voleurs, finalement.
Oui, ben oui, mais le principal visé, c'est M. Asfoura, un homme d'affaires âgé de 67 ans, membre du Parti national et soutenu par Donald Trump, totalisait lundi 40,53% des voix contre 39,16% pour Nasralla, le présentateur de 72 ans, selon le Conseil national électoral. Il reste à vérifier 2800 procès-verbaux de vote affichant des incohérences et représentant 15% des votes valides, reconnu le Conseil national électoral.
Je parlais de marge d'erreur tantôt. Hein,
c'est ça. Selon lui, selon la loi, l'organisme a jusqu'au 30 décembre pour déclarer un vainqueur, donc il reste une quinzaine de jours, on pourrait dire. Le Parti libre de la présidente a réclamé une annulation totale des élections, et invoquant l'ingérence des États-Unis et a appelé à des mobilisations et à des grèves cette semaine. Trump avait déclaré avant le scrutin un soutien sans équivoque à M. Asfoura, qu'il considère comme un ami de la liberté. Il a parallèlement gracié le mentor de ce candidat conservateur, l'ex-président hondurien Juan Orlando Hernandez, qui purgeait une peine de 45 ans aux États-Unis pour trafic de drogue. Et là, il est retourné au Honduras appuyer son candidat. Non, c'est vraiment n'importe quoi.
Puis je pense qu'il menaçait de couper du financement si son candidat...
Exact, couper des aides au Honduras, exactement aussi. Au Chili, ben c'est moins drôle. Le communiste modéré Janet Jara et son rival d'extrême droite, José Antonio Kast, s'affronteront au second tour de la présidentielle chilienne après être arrivé en tête du premier tour lors d'un scrutin dominé par les inquiétudes liées à la criminalité. C'était le 16 novembre. La candidate de la coalition centre-gauche au pouvoir recueille 27 % des suffrages contre 24 % pour son rival ultra-conservateur. Deuxième tour est le 14 décembre, donc en fin de semaine. Pour la première fois depuis la fin de la dictature en 1990, la droite radicale pourrait revenir au pouvoir. Bien que ce pays demeure un des plus sûrs du continent, la criminalité y a sensiblement augmenté dans les dernières années. Cette poussée de la violence a éclipsé les aspirations de changement qui avait porté au pouvoir en 2022 le président de gauche Gabriel Boric et sa promesse finalement avortée d'une nouvelle constitution pour remplacer celle de Pinochet.
Qui avait fait l'objet de beaucoup plus de travail que celle de notre gouvernement québécois.
Oui, ça c'est on va en reparler. L'inquiétude des Chiliens tient notamment à l'arrivée de formes de criminalité organisée jusque-là inconnues dans le pays, comme les assassinats commandités et les enlèvements contre rançon. Jeannette Jarrat, donc ancienne ministre du Travail, a assuré pendant sa campagne n'avoir aucun complexe en matière de sécurité, défendant notamment un contrôle migratoire renforcé. José Antonio Cass, fils d'un ancien soldat allemand qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, puis qui a émigré au Chili, brigue la présidence pour la troisième fois. Son discours cible les 337 000 étrangers en situation régulière, en majorité des Vénézuéliens. Il promet des expulsions massives, la construction d'un mur à la frontière, le renforcement de l'armement de la police et le déploiement de l'armée dans certaines zones critiques. Et c'est lui qui devrait gagner l'élection en fin de semaine.
Un mur à la frontière avec la Bolivie, j'imagine?
Avec le Venezuela, j'imagine?
Non, il n'y en a pas.
En tout cas,
on regardera notre
nos affaires. Sinon, en Bolivie, je vous suggère pour la Bolivie un article du CEDAL du 31 octobre qui s'appelle « Le cauchemar bolivien ». Je vous en lis un mini-extrait. « Quel avenir attend désormais la gauche en Bolivie? Il n'est pas très normal qu'un peuple qui a réussi à vaincre dans les rues, dans les barrages, en s'opposant physiquement aux policiers et aux militaires, et qui a finalement vaincu le coup d'État de 2024 par les urnes, se retrouve aujourd'hui à nouveau à la dérive, attendant que les pires pronostics d'un gouvernement de droite conservatrice s'abattent sur lui et ses acquis. Car en Bolivie, ce n'est pas seulement la droite qui a gagné récemment, mais c'est surtout la gauche, regroupée essentiellement au sein du mouvement vers le socialisme, qui a décidé de s'autodétruire en raison de l'irresponsabilité, entre autres raisons, de ses plus hauts dirigeants. Donc la droite est revenue au pouvoir en Bolivie après 20 ans de socialisme, entre autres, du président.
Duterte.
Evo Morales.
Voilà, Duterte. C'était aux Philippines, c'était pas des bons souvenirs.
Je sais, je voulais te piéger.
Sinon, s'il me reste 2-3 minutes.
2 minutes.
Ben, dans un autre sujet, je voulais parler un peu d'extractivisme rapidement. La Colombie déclare l'Amazonie libre de toute exploitation extractive. C'est un article aussi du CEDAL du 28 novembre. Donc, lors de la réunion des ministres de l'Environnement de l'Organisation du traité de coopération amazonienne à la COP30 en Colombie, cette dernière a annoncé la déclaration de sa partie amazonienne comme zone de réserve de ressources naturelles. Le gouvernement s'est ainsi engagé à protéger plus de 480 000 kilomètres du biome amazonien, soit 42 % du territoire continental colombien et 7 % de toute l'Amazonie sud-américaine. Cette déclaration vise à mettre un terme à la perte et à la dégradation des forêts, à empêcher l'accaparement des ressources en eau et à protéger l'équilibre climatique. Le biome amazonien colombien abrite 10 % des espèces végétales connues de la planète, régule le climat et le cycle de l'eau et alimente les páramos andins, qui sont des zones humides, qui garantissent l'approvisionnement en eau de millions de personnes. Actuellement, en Colombie, il existe 43 blocs d'hydrocarbures et 286 demandes d'exploitation minière dans la zone amazonienne qui vont être annulées. Cette annonce accentue la pression sur d'autres pays de la région, comme le Brésil, qui, il y a quelques semaines, a autorisé l'exploitation d'hydrocarbures dans le fosse de l'Amazone dans le cadre d'un projet de Petrobras visant à forer le bloc 59.
OK, le Brésil de Lula qui brise quelques promesses.
Ça fait déjà depuis le début de son mandat. Là, okay. C'est so-so, disons. C'est moitié-moitié. Ça dépend des promesses. Et en terminant, une campagne pour mettre fin au projet aurifère Loma Larga en Équateur de la minière canadienne DPM Metal. C'est une lettre ouverte sortie le 20 novembre dans le Journal des Alternatives. Donc, l'entreprise minière canadienne est à nouveau vivement critiquée en raison de son bilan environnemental et de ses relations avec les communautés locales en Équateur. Donc, la lettre fait suite à une série de revers importants pour l'entreprise, notamment la révocation de son permis environnemental par le gouvernement équatorien et une plainte déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Mm-hmm. Mais malgré tous les défis juridiques, environnementaux et sociaux, l'entreprise continue de faire avancer le projet et ses programmes communautaires pour amadouer la population. Donc, c'est une lettre ouverte, entre autres, qui a été organisée par Mining Watch Canada, signée par plein d'organisations ici et dans le monde. Donc, c'est un autre dossier des minières canadiennes là, qui continue de faire l'actualité.
Qui foutent la merde partout.
Exact.
Oh, j'entends les casseroles. beaucoup de suggestions pour vous. On commence avec une pétition reliée par Amnesty International qui demande la libération de 5 prisonniers politiques au Cambodge, des membres du groupe environnementaliste Mother Nature Cambodia, qui subissent depuis bientôt 2 ans des peines allant de 5 à 8 ans de prison dans des conditions carcérales indignes. Le nom de la pétition, demander la libération de défenseurs de l'environnement au Cambodge, et on la trouve sur amnesty.org.
Amnesty.org.
Ben, c'est Amnesty. On peut mettre Amnesty, en tout cas.
Oui, amnesty.org, oui.
Merci Mathieu. Ensuite, on vous invite à vous procurer le tout nouveau numéro du magazine Caminando, un numéro spécial consacré à l'eau et aux mouvements sociaux en Amérique latine et au Québec qui se mobilise pour sa protection, la protection de l'eau et qui milite en faveur d'un modèle énergétique plus juste et respectueux de la nature et des droits humains. 16 textes au style et au sujet assez variés, toujours en rapport avec l'eau. Vous pouvez aller sur caminando.ca. pour acheter ce tout dernier numéro ou pour vous abonner aux publications futures. Maintenant, nouvelle campagne de la Ligue des droits et libertés en lien avec la soi-disant laïcité prônée par le gouvernement du Québec. L'élément central de la campagne est une brochure téléchargeable gratuitement en ligne sur ligue-des-droits.ca. Le titre « Parlons laïcité pour une laïcité respectueuse des droits humains ». C'est vraiment super bien fait. On part de la base des principes de séparation des pouvoirs, de neutralité. On distingue laïcité de laïcisme. On nous rappelle les engagements historiques pris par Québec et Ottawa en regard des droits humains. Et on converge du plus général vers le plus particulier avec la situation qu'on est en train de vivre au Québec. La brochure tombe juste à point pour le temps des fêtes. Ce sera une excellente lecture à donner à vos mononcles et ma tante autour de la dinde qui se prétendent grands champions de la laïcité en mélangeant tous les concepts après une coupe de brandy.
Suivi d'un quiz.
Ah, je pense que le quiz, c'est peut-être pas nécessaire. Une autre source en ligne à vous conseiller, c'est la boîte à outils décoloniale de l'OSBL autochtone Mikana. Mikana qui signifie « chemin » en Anishinaabe. La mission de ce groupe est de sensibiliser aux réalités et perspectives des peuples autochtones. La boîte à outils décoloniale, c'est pas nouveau, mais là, on nous présente le niveau 3, dont la thématique est la souveraineté, le droit à l'autodétermination et les liens entre territoire, culture et gouvernance, avec plusieurs ressources complémentaires, audio, vidéo, textuel, numérique. Les niveaux 1, 2 et maintenant 3 sont donc disponibles gratuitement en ligne sur mikana.ca. Maintenant, un film à visionner gratuitement dans le site de l'ONF, Profilage nocturne, documentaire de 42 minutes réalisé par Stephen Verna sur l'assassinat à NDJ par le SPVM en 2018 de l'Afro-Montréalais Nicholas Gibbs, qui était père de 4 enfants qui ont donc été laissés orphelins. Aucune accusation n'avait été retenue contre le policier qui a mortellement atteint la victime suite à l'examen du Bureau des enquêtes dites indépendantes. Film à voir, intégrant spoken word et art urbain sur onf.ca, Profilage nocturne en français ou Night Watches Us en anglais. On poursuit avec le concours d'écriture Ma plume contre le racisme et le profilage édition 2026. Si vous êtes dans le milieu des écoles secondaires, ce concours s'adresse à vos étudiants et étudiantes de secondaire 1 à 5 du Grand Montréal et de la région de Lanaudière. C'est organisé par Lacaille Média, une OBNL, qui s'engage à sensibiliser et à motiver la population multiethnique sur les enjeux cruciaux de la société. Date limite pour soumettre des textes le 6 février 2026. Tous les termes et conditions du concours sur lacaimedia.org. On termine cet agenda avec une exposition à Toronto au AGOL, Art Gallery of Ontario, de l'artiste Inuk Surusirutu Ashuna, décédé en 2011. C'est la toute première exposition monographique qui lui est consacrée. Beaucoup d'estampes, de gravures, entre autres, qu'on décrit comme étant à la fois émouvantes, drôles et oniriques et qu'on peut admirer au Musée des beaux-arts de l'Ontario jusqu'au 10 décembre 2025. Donc voilà pour l'agenda.
10 décembre 2025, ça achève.
Oh! Donc, si vous allez à l'EGO, Art Gallery of Ontario, il y a beaucoup d'articles autochtones à la boutique. Ben, l'exposition est terminée, je suis vraiment désolé.
Non, on a tellement d'informations des fois.
Ben oui.
Mais nous autres aussi, on achève, là.
Oui, pour l'année. En tout cas, c'était le dernier épisode des Apatrides de 2025. On sait déjà qu'on aura assez de matière pour être au rendez-vous en 2026, ça c'est certain. On sera donc de retour parmi vous après la pause des fêtes. On n'a pas discuté de la date encore, 14-21 janvier.
Ça dépend de la rentrée de choc, on va le savoir bientôt.
On le saura bientôt et on sera toujours, on présume, les jeudis 18h30 en direct des studios de choc. D'habitude, on fait des spéciaux en début d'année, bilan de l'année qui vient de finir, prévision de l'année à venir, statistiques et quiz. On va s'en parler en réunion de production, mais c'est sûr qu'on vous revient avec un spécial quelconque. Je vous laisse nos coordonnées. On a une page FB à laquelle vous pouvez vous abonner pour des articles de médias non canadiens ou pour certains événements qui ont bien lieu ici.
Oui.
vos courriels sont toujours les bienvenus à l'adresse apatridesanonymes@resist.ca. On a un site web apatridesanonymes.info où vous trouverez nos épisodes en rattrapage, ces mêmes épisodes qui sont évidemment aussi sur choc.ca. La dernière pièce qu'on va écouter, c'est le piano jazz très solide de la Montréalaise Ariane Racicot. Et marquez vos calendriers, c'est rare que je passe du jazz. Donc, la pièce Dancing with Fire de son deuxième album paru plus tôt cette année, Danser avec le feu. On joue un peu sur le bilinguisme ici.
Ben oui.
Elle est accompagnée à la basse par Antoine Rochefort et à la batterie par Guillaume Picard. Merci à vous deux, Marie-Ève et Mathieu.
Hey, merci Simon à l'animation, toujours aussi tight, comme on dit.
Merci beaucoup.
Merci Simon. Et moi, je voulais quand même saluer la mémoire de Jacques Nadeau. En terminant,
un de nos grands photojournalistes.
De manifestations et de mobilisations, entre autres, avec André Quiry à Montréal. Donc, Jacques Nadeau qui a fait un excellent travail pendant très longtemps.
Ouais. Effectivement.
Il va sûrement avoir des rétrospectives sous forme de livres ou d'expositions.
Documentaires peut-être aussi.
On vous donnera tout ça aussitôt qu'on le saura. Donc, merci à vous deux pour votre vulgarisation d'une actualité pas toujours très belle ou facile. Donc, hâte de vous retrouver en 2026. Salut à tout le monde qui nous écoute sur Radio Victoria, sur choc.ca, en direct ou en rattrapage. C'est pour vous qu'on fait ça et on vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, un peu à l'avance.
Oui.
Et voilà, on écoute Ariane Racicot. On se retrouve en 2026.
Bye bye.